Luc, chapitre 1, versets 16 à 17. Il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer un Seigneur, un peuple bien disposé. Bonjour à tous, frères et sœurs. Bonjour et bon sabbat. Je prie que le Seigneur vous bénisse en ces moments, moments de sabbat et moments de méditation, tout particulièrement. Nous continuons, poursuivons notre méditation sur notre série, sur le troisième Élie. Nous avons parcouru déjà deux études. La première, jetant les fondements de notre compréhension du troisième Élie à la lumière de la Bible. Hein, nous sommes encore dans cette étude du sujet à la lumière des paroles de l'Écriture pour que nous établissions un fondement intelligent et que nous sachions donner des raisons de notre croyance à la fois à nous-mêmes et aux personnes auxquelles nous sommes, auxquelles Dieu désire que nous partagions la lumière. Le troisième Élie, nous avions vu un exposé biblique. Notre lecture, méditation précédente reposait sur le rétablissement de toutes choses. Nous avons vu que le troisième Élie est appelé et son message consiste à rétablir toutes choses, parmi lesquelles choses il y a vraiment inévitablement la loi de Dieu, l'immutabilité de la loi de Dieu, la continuité de la loi de Dieu. Nous avons vu cela dans Ésaïe chapitre 58, que nous avions conclu que ce peuple du troisième Élie, n'est autre que le peuple des trois anges. Nous avions fait le parallèle et le rapprochement entre ces passages d'Ésaïe chapitre 58 et Apocalypse chapitre 14. Je vous renvoie plutôt à cette méditation qui établissait vraiment cette compréhension intelligente et biblique que le troisième Élie ne peut être que ce peuple qui présente le sabbat du quatrième commandement comme étant encore applicable aux chrétiens dans la dispensation chrétienne. Aux croyants, je devrais dire, dans la dispensation chrétienne. Et maintenant, aujourd'hui, nous voulons nous concentrer, nous attarder sur l'expression donnée par l'ange Gabriel lorsqu'il parlait à Zacharie, le futur père du petit Jean. Quel est l'esprit et la puissance d'Élie dont l'ange Gabriel parlait dans son entretien avec Zacharie, lui annonçant le caractère et la mission de son futur enfant, qui s'appellerait plus tard et que l'on connaît sous le nom de Jean-Baptiste? Qu'est-ce que c'est? Quel est cet esprit et cette puissance d'Élie qui était annoncé par l'ange Gabriel? Je vous rappelle plutôt ces paroles sur lesquelles nous voulons élargir et sur lesquelles nous voulons méditer aujourd'hui. L'ange Gabriel dit à Zacharie, verset 15, tout d'abord, il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson forte, etc. Verset 16, il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Verset 17, et il marchera devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie, comme c'est marqué dans la Bible King James, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Pourquoi ? Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et de la même manière que ce fut la mission de Jean-Baptiste, à plus forte raison, comme nous l'avions vu à travers les paroles de Jésus, à plus forte raison, c'est la mission du troisième Élie de ce peuple des trois anges. Nous avions fait le rapprochement entre cet appel à l'observation du sabbat dans Ésaïe chapitre 58, versets 12 et à 14, et le peuple du troisième ange qui nous dit « C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Nous avions fait ce rapprochement ici, je n'y reviens pas. Mais aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur cet esprit et cette puissance d'Élie pour que nous puissions distinguer ce message lorsque nous y sommes confrontés. Et que nous puissions aussi épouser ce message lorsque nous y sommes confrontés. Lorsque Dieu nous confronte par ce message, comme nous allons le voir. Et donc, notre point de référence sur l'esprit et pour l'esprit et la puissance d'Élie se trouve dans 1 Roi. 1 Roi, chapitre 18, verset 17 à 39. C'est notre point de référence qui nous aide à comprendre les paroles de l'ange Gabriel à Zacharie et qui aidait Zacharie à comprendre le sens même de ses paroles. Et 1 Roi, chapitre 18, verset 17 jusqu'à 39, nous allons lire en entier parce que dans notre méditation aujourd'hui, on va s'attarder sur les pensées et les principes qui sont contenus dans ces événements-là d'Élie et du peuple d'Israël, des 10 tribus. Et après, nous pourrons faire le rapprochement avec le peuple dans lequel nous pouvons voir ces choses-là reflétées, ces choses-là, ces principes et ces activités. Je lis 1 Roi, chapitre 18, verset 17. Donc juste avant, dans le contexte, Élie s'est présenté à Abdias et il lui a dit, voilà, appelle Achab. Et Abdias dit, mais si j'appelle Achab, toi tu vas disparaître et ensuite Achab il va me mettre à mort, etc. Donc il y avait cet entretien. Mais Élie lui a dit, non, appelle Achab, moi je serai là, je vais rester là, je ne vais pas disparaître, je vais le rencontrer. Donc Abdias a fait ce qu'il lui a demandé. Abdias s'en alla donc au verset 16 à la rencontre d'Achab, lui fit son rapport et Achab vint au devant d'Élie. Et nous reprenons ici le narratif à partir du verset 17. Je lis. Et aussitôt qu'Achab eut vu Élie, il lui dit: est-ce toi perturbateur d'Israël? Mais il, Élie, répondit: je n'ai point troublé Israël, mais c'est toi et la maison de ton père en ce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Mais maintenant, envoie et fais assembler vers moi à la montagne de Carmel tout Israël, et les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. Et Achab envoya vers tous les enfants d'Israël, et rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Donc, Achab a fait ce que Élie a demandé, il a rassemblé tous les prophètes de Baal, qui semblait être le sacerdoce qui guidait spirituellement le peuple d'Israël sous la direction d'Achab. À savoir, le peuple d'Israël, là nous parlons des 10 tribus qui s'étaient séparées des 2 tribus de Juda et de Benjamin à Jérusalem. C'est à ce peuple-là, ces 10 tribus, ce grand Israël, on pourrait dire que la mission d'Élie était dirigée, on pourrait dire ça. Et nous continuons au verset 21. Puis Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, suivez-le. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Alors Élie dit au peuple, « Je suis demeuré seul prophète de l'Éternel, et les prophètes de Baal sont 450 hommes. Qu'on nous donne deux jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un pour eux, qu'ils le dépècent et le mettent sur le bois, mais qu'ils n'y mettent point le feu, et je préparerai l'autre taureau, et je le mettrai sur le bois, et je n'y mettrai point le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien dit. » Et Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des deux taureaux et préparez-le les premiers, car vous êtes en plus grand nombre, et invoquez le nom de votre Dieu, mais n'y mettez pas le feu. » Et ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, disant, « Baal, exauce-nous !» Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient autour de l'autel qu'on avait fait. Et sur le midi, Élie se moquait d'eux et disait, « Criez à haute voix, car il est Dieu !» Mais il pense à quelque chose, ou il est à quelque affaire, ou en voyage, peut-être qu'il dort, ou il s'éveillera. Ils criaient donc à voix haute, et ils se faisaient des incisions avec des couteaux et des lancettes, selon leur coutume, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Et lorsque midi fut passé, et qu'ils eurent fait les prophètes jusqu'au temps où l'on offre l'oblation, sans qu'il y eût ni voix, ni réponse, ni aucune apparence qu'on eût égard à ce qu'il faisait, alors Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui, et il répara l'autel de l'Éternel qui était démoli. Et Élie prit 12 pierres selon le nombre des tribus des enfants de Jacob, auxquelles la parole de l'Éternel avait été adressée en lui disant, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit de ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Puis il fit, autour de l'autel, un canal de la capacité de 2 mesures de semences, et il rangea le bois, et dépeça le taureau, et le mit sur le bois. Et il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches, et versez-les sur l'holocauste, et sur le bois. » Puis il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils firent une seconde fois, et il dit encore, « Faites-le une troisième fois. » Et ils le firent une troisième fois. De sorte que les eaux allaient autour de l'autel, et même il remplit d'eau le canal. Et au temps où l'on offre l'oblation, le prophète Élie s'approcha et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on connaisse aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Exauce-moi, Éternel, exauce-moi, et que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Alors le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste et le bois et les pierres et la poussière, et absorba l'eau qui était dans le canal. Et tout le peuple, voyant cela, tomba sur son visage et dit, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Et ensuite, Élie s'en alla ordonner que l'on mette à mort les prophètes de Baal, ce qu'il fit. Et ensuite, ça continue. Et ensuite, il annonce qu'il va y avoir des pluies. Et en effet, la pluie vient, etc. Ça poursuit. Mais nous voulons nous concentrer ici tout particulièrement. J'ai lu jusqu'à la fin pour que ça soit fait déjà. Nous voulons nous concentrer sur le début ici, avant qu'il y ait cette espèce de tournoi de qui fait venir le feu sur son autel. De toute évidence, Baal n'a pas pu répondre. comme il disait Élie, leur Dieu n'existait pas, donc ils ne pouvaient pas répondre. Et nous disons tout particulièrement que il fut dans l'esprit de prophétie qu'il fut très alerte pour s'assurer qu'il n'eût que les prophètes de Baal n'aient pas recours à des stratagèmes pour faire venir le feu. Et au verset 17 et 18, c'est là que c'est particulièrement intéressant. Et ensuite, bien sûr, au verset 21. Au verset 17 et 18, nous lisons que l'esprit, nous pouvons conclure que l'esprit d'Élie consiste à attirer l'esprit des adorateurs à la vraie religion. Parce que regardez, Achab lui disait, est-ce toi qui troubles Israël, comme c'est marqué dans la Bible King James? Élie lui répondit, je n'ai pas troublé Israël, je n'ai point troublé Israël, mais c'est toi et la maison de ton père en ce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Donc, le message d'Élie consiste à ramener le peuple de Dieu à la vraie religion, à la vraie adoration. Parce que il a attiré le fait, il a attiré l'attention d'Achab et de ceux qui étaient à sa suite sur le fait qu'ils avaient abandonné quelque chose. Donc ça, nous avions vu. Ensuite, au verset 21, nous voyons, c'est là que ça devient très intéressant et c'est vers cela que je voulais tout particulièrement attirer notre attention. Nous voyons au verset 21 que le message présenté dans l'esprit et la puissance d'Élie suscite très souvent le silence et l'indifférence. C'est là que nous faisons le parallèle. Comment est-ce que nous pouvons dire ça? Parce que lorsque Élie annonça au peuple et leur demanda « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, mais si c'est Baal, suivez-le. » Ayant fait cette déclaration, nous lisons que le peuple ne lui répondit pas un mot. Et de la même manière, nous pouvons nous attendre à ce que, sous l'influence et le message du troisième Élie, nous soyons également, et que le peuple de Dieu se trouve également confronté au silence et à l'indifférence. Parce que c'est une réaction qui est directement, par rapport à notre point de référence biblique ici, qui est directement liée au message donné dans l'esprit et la puissance d'Élie. Quel est l'esprit? L'esprit est un appel à la vraie religion, mais un appel à ne plus boiter. Pourquoi le silence? Le silence parce qu'on ne peut rien dire contre la vérité. C'est indiscutable. Quand il disait qu'ils avaient abandonné les commandements de Dieu et qu'ils suivaient Baal, un peu Dieu et un peu Baal, ils ne pouvaient pas contredire cela. Élie avait raison. Et cela, cette vérité réduit au silence toute contestation. Et l'indifférence, parce que la profonde mondanité de ces derniers jours, dans lesquels le troisième Élie opère, est comme une carapace contre les solennels avertissements de Dieu, qui rend l'âme insensible même aux plus forts appels, l'indifférence. Pourquoi sommes-nous indifférents? Pourquoi rencontrons-nous l'indifférence? À cause de la profonde mondanité du monde. De sorte que on n'a rien à répondre un appel si juste. Qu'est-ce que c'est qui fait cela? Qu'est-ce qui fait que nous sommes indifférents? Le monde a accaparé nos affections et nous n'avons rien à répondre. Parce que nous voulons continuer. Du moins, c'était la raison pour laquelle eux répondaient de cette manière. Et quand Élie dit jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Vous voyez ici qu'Élie était lui-même confronté à un esprit d'indécision. Un peu ci, un peu là. N'est-ce pas aussi ce à quoi nous sommes confrontés même Parmi ceux-là qui se réclament d'appartenir à Dieu et à son peuple, parmi nous-mêmes qui nous réclamons d'une telle appartenance, d'une telle identité, Élie était confronté à un profond esprit d'indécision, à un mélange de la religion de Dieu avec la religion du diable. Parce que Baal, ce n'est autre qu'un nom pour le diable. Et donc c'est un peu le parallèle à cela dans de nos jours, c'est un mélange de Dieu et du monde. Servir un peu Dieu, servir un peu le monde, et cela donne cet esprit d'indifférence aux appels d'Élie. De la même manière qu'aux appels du troisième Élie, peut-être. Et l'esprit et la puissance d'Élie étaient nécessaires pour Jean-Baptiste, le deuxième Élie, et seraient également nécessaires pour le troisième Élie. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que les mêmes circonstances et la même condition spirituelle d'apostasie dans le peuple de Dieu, qui existait du temps d'Élie, existe encore aujourd'hui. Quelles conditions ? D'aimer un peu Dieu, de servir un peu Dieu, et de se servir un peu soi-même, d'aimer un peu le monde. Ce mélange, ce manque de consécration, cette tentative constante de se faire plaisir et aussi de faire plaisir à Dieu. N'était-ce pas également la condition de ces personnes-là? De toute évidence, parce que Élie disait qu'il boitait. Élie disait, quand il leur demandait, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Il impliquait le fait qu'ils boitaient. Et il leur demandait quand est-ce qu'ils allaient arrêter de boiter. Boiter entre Baal et l'éternel Jéhovah. Parce que ce n'était pas, s'ils adoraient seulement Baal, seulement le diable, Élie n'aurait pas eu ce message à leur donner. Élie leur aurait dit, revenez au Seigneur votre Dieu. Mais là, il leur, ce qui était aussi la vérité, l'appel, mais là, il leur disait, jusqu'à quand boiterez-vous de ce côté de celui-là? Et c'est intéressant parce que nous réfléchissons au parallèle actuel de cette condition spirituelle du peuple d'Israël, des 10 tribus du temps d'Élie. Et nous réalisons que l'activité individuelle et corporative, hein, dans l'ensemble de l'Église, consistant à boiter des deux côtés, est en fait celle qui fait naître la nécessité d'un témoignage rendu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Qu'est-ce qui fait naître cette nécessité d'un témoignage rendu dans l'esprit, la puissance d'Élie, ce boitement des deux côtés, à la fois dans l'activité individuelle des croyants, dans leur vie individuelle, et corporative, dans le corps des églises. Ce n'est plus simplement une activité individuelle, mais c'est une activité corporative dans laquelle les églises comportent et sont animées de cet esprit de boitement, d'un peu, de servir un peu Dieu et servir un peu le monde. C'est ça qui fait naître, dans les derniers jours, comme cela faisait naître du temps d'Élie, la nécessité d'un tel message. Et il faut aussi noter, il convient aussi de noter que la difficulté croissante, c'est qu'un tel témoignage tranchant requiert une consécration en harmonie avec l'appel sans équivoque d'Élie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour qu'un tel témoignage existe, il nous faut avoir une consécration qui soit en harmonie avec l'appel sans équivoque d'Élie. C'est-à-dire que pour pouvoir donner, rendre un tel témoignage, il nous faut nous-mêmes être en harmonie avec l'appel sérieux d'Élie au peuple de Dieu et de Dieu à son peuple. Et donc la question qui se pose lorsque nous sommes en train ici de méditer ces paroles-là, frères et sœurs, et d'en voir l'application dans les jours dans lesquels nous vivons, la question qui se pose, c'est sommes-nous prêts à faire preuve d'une telle consécration et d'un tel dévouement? Parce que alors seulement pouvons-nous avoir l'assurance que nous appartenons en toute réalité au message du troisième Élie. Quand nous savons et que nous sommes réellement prêts et que nous manifestons cette préparation à faire preuve d'une telle consécration et d'un tel dévouement. Quelle consécration? Celle qui est en pleine harmonie avec l'appel sans équivoque d'Élie. Quel est l'appel? À ne plus boiter. C'est vraiment sérieux. C'est sérieux et c'est simple à la fois. C'est est-ce que je suis prêt à ne plus boiter? Et pour cela, Dieu nous conduit. Je pourrais ici lire plein de passages et tout, ce que je n'ai pas forcément préparé et ce qui pourrait être vérifiable très facilement. Mais je tiens quand même à dire que Dieu nous conduit individuellement et corporativement pour parvenir à ce seuil de décision que nous n'allons plus boiter. Parce que seule une personne qui ne boite plus peut appeler au peuple de Dieu à cesser de boiter, à cesser d'alterner, entre guillemets, entre le servir Dieu et se servir soi-même. Aimer Dieu et aimer le monde. Un mélange constant. Ça vous rappelle quelque chose, nous allons y aller. Et c'est là une des raisons pour lesquelles Élie disait qu'il était demeuré seul prophète de l'Éternel au verset 22. C'est là que ça devient intéressant ici. Donc vous voyez ici, nous avons lu l'histoire d'Élie et nous voyons, nous réfléchissons bien à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière aussi, je le noterai en passant, des nombreuses déclarations de l'esprit de prophétie, vous voyez que combien ces choses-là sont applicables, combien ces choses-là sont une réelle illustration vivante des choses que nous vivons et que nous traversons aujourd'hui. Et après que Élie leur ait dit cela, ce message qui naissait de l'évidence de leur boitement incessant, et après que, ayant fait prononcer ce message, le peuple ne lui répondit pas un mot, resta silencieux. Alors, Élie dit au peuple, verset 22, « Je suis demeuré seul prophète de l'Éternel, et les prophètes de Baal sont 451. » Il n'y a plus que moi. Il n'y a plus que moi. Confronté à leur absence de réponse totale, il fut animé de cette pensée, « Il n'y a plus que moi. » Vous ne voulez pas servir Dieu, je ne trouve personne qui veuille servir Dieu avec une entière consécration. Et ce qui fut, c'est l'esprit, la puissance d'Élie ici, ce qui fut l'expérience d'Élie sera également l'expérience de ceux qui acceptent de vivre en harmonie avec et de rendre un tel témoignage. Quelle sera l'expérience ? D'être confronté au silence. Parce que, bien que, après avoir été confronté à la preuve manifeste et évidente que l'Éternel était Dieu et qu'ils s'exclamèrent tous au verset 39 que c'est l'Éternel qui est Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils restèrent fidèles après, nous n'en savons rien. Vous comprenez? C'est la même chose que une personne méchante. Pensez à Saul. Je crois qu'on dit Saul ou Saül, je ne sais plus. Le roi, celui qui était roi d'Israël avant David. Parfois, quand David était allé voir Saul et il avait vu dans son sommeil, et il ne lui avait rien fait. Et ensuite, plus tard, David, il a dit, je ne t'ai pas touché, voilà, c'est toi qui es roi d'Israël, comment est-ce que je pourrais toucher loin d'Israël? Et Saül, oui, je crois qu'on dit Saül lui a dit, tu es plus juste que moi. Donc il a reconnu que David était juste, mais est-ce que Saül a pour autant fait ce qui était juste, ce qui était juste devant Dieu par la suite? Non. Donc le fait de reconnaître quelque chose, ça ne veut pas dire que nous allons vivre en harmonie avec cette chose. De la même manière que le fait que le peuple d'Israël ici qui était présent à la montagne de Carmel dit à voix que c'était bien l'Éternel qui était Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils ont cessé d'adorer les Baals. Vous comprenez? Faut bien faire cette distinction. Et c'est pour ça qu'on peut conclure et réaliser que ceux qui se revêtent du même esprit et de la même puissance qui animait Élie se verront confrontés aux mêmes angoisses, aux mêmes solitudes. Cela peut paraître, quand vous y réfléchissez, cela peut paraître très glamour, très héroïque et excitant sur le papier de lire que voilà, le feu est descendu. Et il a eu la victoire, les prophètes de Baal ont été exterminés. Mais la réalité, c'est que l'opprobre et l'indifférence attendent ceux qui choisissent d'endosser la mission du troisième Élie. Bien qu'il peut y avoir des moments où beaucoup de personnes admettent que c'est la vérité, ça ne veut pas dire que cela va devenir des disciples. Vous voyez? Donc sur le long terme, c'est l'opprobre et l'indifférence qui attendent ceux qui choisissent d'endosser la mission du troisième Élie. Et c'est en cela qu'il y a besoin de cette patience des saints. Parce que sans cette patience de la persévérance, comme c'est marqué, je crois, dans la Bible Second, il y a marqué, c'est ici la persévérance des saints, et je ne veux pas contester cela. Sans cette patience de la persévérance, qu'est-ce qui va nous arriver? Si nous sommes vraiment confrontés à cette expérience qui fut celle d'Élie, et que nous ferons également si nous rendons ce même témoignage qu'il avait rendu et qu'il rendait, sans cette patience de la persévérance, nous sombrerons nous-mêmes précisément dans cette apathie morale et spirituelle du peuple apostat auquel Élie le prophète était envoyé. Cette même apathie du fond de laquelle nous sommes pourtant appelés à sortir le peuple de Dieu. Ça vous rappelle peut-être quelque chose? Dans Apocalypse chapitre 18 verset 4. C'est important cela, vraiment, vraiment, vraiment important. Vous direz, non, mais je sais pas, ça fait plus 30 minutes que tu parles, tu n'as pas lu un verset. C'est parce que nous avons besoin de réfléchir pour réaliser, entre guillemets, l'applicabilité de ce que nous lisons ici, pour voir à quel point, dans quelle mesure, ce que nous lisons est applicable et à quel point nous aussi, nous sommes illustrés par ces personnes-là au sujet desquelles Élie disait qu'il boitait entre Dieu et Baal. Oh. Oui. Qu'est-ce que cela vous rappelle, le fait que nous sommes appelés à sortir le peuple de Dieu de cette apathie-là, qui est elle-même pour nous un danger? Apocalypse chapitre 18, verset 4. L'autre voix. Après l'autre ange d'Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 3, qui n'est autre que le grand cri du troisième ange, je lisais, je lis plutôt, puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Sortez du milieu d'elle. Mais simplement, pour appeler et pour être utilisé pour annoncer un tel message, il faut être nous-mêmes sortis. Mais pour sortir, cela ne veut pas simplement dire sortir d'une organisation. Parce que vous pouvez sortir de la ville et avoir encore la ville dans votre cœur. Vous comprenez ? Vous pouvez sortir d'un lieu et encore avoir l'esprit du lieu en vous. Donc, vous pouvez aller en campagne et être encore un citadin dans votre tête. Vous voyez ? C'est pour cela que nous avons besoin de la patience. Pas de la patience, simplement une patience passive. Nous ne sommes pas des yogis. Nous ne sommes pas appelés à faire du yoga ou à faire de la méditation transcendantale. Pas cette patience-là. Ce n'est pas de la patience qui est spirituelle. Parce que nous pouvons méditer, nous vider l'esprit et pourtant être tout autant charnel. Non, la patience qu'il nous faut, c'est la patience de la persévérance. Persévérance dans quoi ? Persévérance en renonçant aux œuvres de la chair afin de ne pas sombrer dans cette apathie-là, mentale et spirituelle, de ces mêmes personnes auxquelles nous voulons et pour lesquelles nous voulons exercer un ministère afin de les sortir. Vous discernez. Et donc, nous voyons ici, frères et sœurs, lorsque nous allons dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 19, Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 19, le message de Jésus à l'ange de l'église de Laodicée nous rappelle quelque chose. Parce que le message du troisième Élie, donné dans l'esprit et la puissance d'Élie, est donc un appel à deux tranchants. Le premier tranchant s'adresse aux observateurs du dimanche. Il les exhorte à prendre au sérieux la loi éternelle et divine des 10 commandements, en retenant leurs pieds au jour du sabbat, comme nous avions vu dans l'étude précédente, comme c'est marqué dans Ésaïe chapitre 58, versets 12 à 14. Au jour du sabbat, du septième jour, le jour que Dieu avait béni. Et l'autre tranchant, celui que nous voulons lire, s'adresse au peuple même à qui Dieu a confié les vérités pour ces derniers jours, qui ne sont autres que les adventistes du septième jour. Et que dit cet autre tranchant ? Comment est-il exprimé dans la parole de Dieu par lequel nous pouvons voir l'esprit et la puissance et le message d'Élie répéter, mais de manière appropriée et adaptée au peuple dans la période de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, je lis, verset 14. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et te repens. Quel est l'autre tranchant? Je connais, dit Jésus, hein, c'est ce que le témoin fidèle et véritable dit. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant, ni complètement mondain, ni complètement pour Dieu, ni complètement consacré à Dieu, ni complètement dévoué au monde. Tu boites des deux côtés. Vous voyez le rapport. Vous voyez donc que le peuple qui va dans l'esprit et la puissance d'Élie, ce troisième Élie, ce n'est autre que le peuple à qui Jésus s'adresse, faisant écho à ce même message que Élie donnait au peuple d'Israël. Et donc, Dieu s'adresse ainsi à l'ange de l'église de l'Odyssée, qui n'est autre que le ministère. Et ensuite, le ministère s'adresse ainsi au peuple, et enfin, du moins, certaines personnes adressent et relatent le message. Et c'est de cette manière que le message est présenté au peuple de Dieu. Vous voyez? Présenté à qui? Au peuple de Dieu dans Babylone et au peuple de Dieu qui a les vérités qui sont censées appeler un peuple à sortir de Babylone. Vous voyez? Donc, nous voyons que le message du troisième Élie est un appel à deux tranchants. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas juste nous prenons toutes les vérités de la parole de Dieu, toutes les déclarations de l'esprit de prophétie pour les diriger à d'autres personnes. Non, parce que c'est à deux tranchants. Les choses que nous voulons fournir aux autres et par lesquelles nous voulons aider les autres sont par la même occasion destinées à nous aider, à nous délivrer, à nous sauver, à nous garder de sombrer dans l'apathie morale et spirituelle qui caractérise cette dernière génération, que ce soit des chrétiens observateurs du dimanche ou des adventistes du septième jour, qu'ils soient réformateurs ou non. C'est l'esprit qui flotte, qui vole, qui survole ce monde chrétien moderne, cet esprit d'apathie et d'indifférence qui poussait Élie à déclarer « Je suis, il n'y a plus que moi, Seigneur ». Et à un autre endroit, je ne sais plus trop où, Dieu lui a dit que j'ai encore 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Mais pour ce qui est de Élie, lui, il n'était pas au courant de ces personnes-là. Il ne les avait pas vues, il ne les avait pas rencontrées. Autrement, il n'aurait pas dit quelque chose pareil. Vous comprenez? Donc souvent, dans ce troisième Élie, nous nous retrouverons confrontés à une parfaite indifférence. Un profond silence. C'est le silence parce qu'il n'y a rien à dire. Ce que vous dites est la vérité, mais ce n'est pas pour autant que j'ai envie d'y adhérer. Je n'ai pas envie de me dévouer à cela, me consacrer à cela. Vous comprenez? L'esprit, c'est que l'apathie morale et spirituelle régit et prévaut dans le monde chrétien, sans parler du monde au-delà de la profession de foi en Jésus-Christ. Vous discernez? Et donc, aller dans l'esprit et la puissance d'Élie, ce n'est pas juste faire une expérience qui semble héroïque, qui nous paraît excitante. Non, c'est avoir l'esprit, avoir la puissance, avoir la persévérance pour adhérer corps et âme et esprit au message que nous voulons donner. Parce que si nous n'y sommes pas nous-mêmes dévoués, en renonçant à nous-mêmes, en marchant dans le renoncement, en marchant dans la justice, en faisant ce qui est juste plutôt que ce qui est mal, en dépendant de Dieu et en acceptant ses réprimandes, alors nous serons dans la même apathie qui est déclarée au sujet des personnes que nous croyons être dans le besoin. Vous voyez? Nous disons, voilà, Le sabbat, c'est le jour de l'Éternel, il faut que vous gardiez le sabbat, mais nous, nous ne marchons pas dans la vérité. Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que le message d'Élie est à deux tranchants en ce qu'il est destiné aux deux catégories, pour ainsi dire. À la fois celles qui, comme c'est marqué ici, ont les vérités menant au salut, les vérités pour ces derniers jours, les vérités des trois anges, et les personnes qui n'ont pas ces vérités. Ces deux catégories-là. Mais souvent, j'ai remarqué, et c'est là que nous sommes humiliés, souvent, que nous sommes, ça nous rend humbles, c'est que parmi les observateurs du dimanche, souvent, nous discernons que ces personnes-là ont plus de dévouement, parfois, que nous, qui professons avoir tant de connaissances, mais qui pourtant, souvent, parfois, ne marchons pas en pleine harmonie avec ce que nous savons être la vérité et ce que nous savons et que nous connaissons être notre devoir. Et donc, en cela, Dieu, c'est ce que j'avais marqué, Dieu est un Père bon et juste et équitable en ce qu'il donne à chaque enfant sa juste réprimande. L'enfant qui n'observe pas le sabbat, mais qui cherche à adorer Dieu, qui n'est pas rebelle aux vérités pour ces derniers jours, Dieu lui donne ce dont il a besoin, et celui qui a toutes les vérités, que dit-il? Que dit Jésus? Que dit Dieu? Il dit, voilà, je connais tes œuvres. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et te repens. Te repens de quoi? Te repens de boiter. Te repens de boiter. Vous comprenez, frères et sœurs? Ni froid ni bouillant, c'est boitant des deux côtés. Un peu pour Dieu, un peu pour le monde. Le troisième Élie est envoyé pour remédier à cette condition laodicéenne. Et c'est là que j'arrive à cette, entre guillemets, conclusion, mais qui n'est en réalité pas une conclusion, mais un élargissement de l'envergure de ce message. C'est là que nous voyons qu'en réalité, l'esprit sous-jacent de ce troisième Élie, c'est le témoignage de Jésus. Vous comprenez? Parce que le témoin fidèle et véritable, que dit-il? Quelle est l'essence de son message? Il révèle au peuple même qui a la vérité pour ces derniers temps qu'il n'est pas comme il devrait être, qu'il n'est pas dévoué comme il devrait être, qu'il n'est pas consacré comme il devrait l'être s'il veut réellement accomplir sa mission. Et il le traîne dans sa propre poussière. Il dit, voilà, tu dis que tu es riche, que tu t'es enrichi, que tu n'as besoin de rien, mais tu ne sais pas, tu ne connais pas que tu es en réalité malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Et donc Jésus ne nous laisse pas dans notre décadence morale et spirituelle. Il nous dit, voilà, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir vraiment riche, des vêtements blancs pour être réellement vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois vraiment, que tu vois ce que avant tu ne voyais pas, que tu vois la valeur des choses spirituelles, la valeur des choses divines, la valeur des choses célestes, et que les voyant, tu t'y livres, et que t'y livrant, tu sois rendu capable, spirituellement parlant, d'être utilisé pour mener à bien cette œuvre-là des trois anges, et tout particulièrement de cette autre voie du ciel. Parce que c'est vraiment l'aboutissement de ce troisième Élie, c'est l'autre voie du ciel. Mais pour être en harmonie avec cela, il faut traverser, cheminer à travers cet appel à deux tranchants. Comprendre que nous sommes appelés à appeler. Nous sommes appelés à appeler, mais que nous sommes également appelés à nous conformer. Conformer au message, conformer aux attentes de Dieu, conformer à ses appels. Et c'est pour cela que dans notre quatrième partie, Dieu voulant et Dieu aidant, nous nous concentrerons sur l'esprit, comment dire, l'essence du message d'Élie, qui n'est autre que l'esprit de prophétie. Nous avions vu cela dans notre leçon 13 sur être poussé par l'esprit. C'est l'esprit de prophétie qui contribue dans une très grande mesure à ce message d'Élie et qui en est l'essence. Et nous irons dans un passage dans 1 Corinthiens, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 1 ou quelque part par là, où nous voyons que l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus-Christ, est précisément cette chose-là qui nous prépare et qui constitue le rétablissement de toutes choses, qui est partie intégrante, je crois, qu'on peut dire ça, partie intégrante de ce rétablissement de toutes choses qui prépare un peuple bien disposé, comme c'est marqué dans Luc chapitre 1, verset 17, bien disposé au Seigneur, bien disposé à sa venue. Voilà. Voilà, frères et sœurs, c'était notre méditation pour aujourd'hui. J'espère, je prie, qu'elle a été et qu'elle sera bénéfique pour vous et pour nous tous. Et en attendant notre prochaine méditation sur la quatrième partie, je prie que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt. Au nom de Jésus. Amen.